Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Bienvenue à toi, cher compagnon. Et qu'est-ce qui s'est passé dans le monde du cloud ou du DevOps en ce mois de janvier 2022? Et comme on est au mois de janvier, c'est l'occasion pour moi de te souhaiter une bonne année. Et je pense que les podcasteurs avec moi te souhaiteront une bonne année. Et on te remercie de ta fidélité parce que mine de rien, ça fait maintenant 2 ans que tu nous écoutes déblatérer sur les sujets globaux autour du DevOps. Et la petite information que j'ai à te donner si tu écoutes le podcast et que tu ne regardes pas la vidéo sur YouTube, c'est que cette année, j'ai fait un bilan en live sur YouTube et non plus en podcast. Donc, je t'encourage, si ça t'intéresse, à aller le voir sur YouTube. Ça dure 1h30. Donc, si tu as le temps, bah, tu peux y aller.
Bienvenue sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti!
Avec moi, ce soir, j'ai Nicolas. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir à tous.
J'ai aussi Damir.
Bonsoir à tous et bonne année, excellente année, meilleurs vœux, que vos commits se passent bien et que vous ne poussiez pas de secrets en clair dans Git, mais on en reparlera.
Et enfin, j'ai René.
Bonsoir et bonne année.
Alors en effet, Damir a spoilé l'un des prochains Radio DevOps, mais que vous n'aurez pas ce mois-ci, que vous aurez dans plusieurs mois, parce que nous avons de l'avance sur les Radio DevOps, donc vous aurez un épisode sur les secrets un jour. Et pour commencer, c'est moi qui vais m'y coller, et je ne vais pas vous parler de la faille de Log4Shell. Non, je vais vous parler en fait d'une des conséquences de celui-ci. En fait, si vous voulez en savoir plus sur Log4Shell, je vous renvoie à l'excellent podcast des éclaireurs du numérique, dont le lien est dans la description. En fait, qu'est-ce qui s'est passé suite à ça? Il y a des développeurs de projets open source qui en ont eu marre finalement que les grosses boîtes, vous savez, les fameuses top 500 et autres GAFAM, utilisent leurs projets open source sans donner de retour, qu'ils soient monétaires, financiers ou avec du code ou autre. Grosso modo, c'est ce que Marak Squire nous disait sur GitHub en novembre 2020. Alors Marak, c'est qui? Marak, c'est un mainteneur de 2 bibliothèques NPM, la première qui s'appelle Faker.js et l'autre qui s'appelle Color.js. En fait, sur GitHub, il a près de 990 dépôts de code publics et 45 sponsors, mais surtout il est suivi par 3600 personnes. Et cette semaine, en fait, il a décidé de se mettre en grève. Et son moyen d'action est assez inédit, j'ai trouvé. En fait, c'est pas lui qui se met en grève, c'est pas lui qui ne travaille plus, mais c'est ses projets qui ne fonctionnent plus. Et a priori, c'est pas le seul à faire ça, mais en tout cas, c'est de lui dont on entend le plus parler en ce moment. Certains médias, comme Le Monde, parlent justement de sabotage ou de corruption. Personnellement, j'assimile ça vraiment à de la grève, parce qu'on est vraiment là face à une action proche de l'ouvrier qui refuse de prendre son poste de travail et qui donc bloque toute la chaîne de production. Alors, comment il s'y est pris? En fait, dans Color.js, il a publié la version 1.4.44 Liberty 2, qui affiche un drapeau américain, qui bloque en fait le module. Il a aussi sur Faker.js complètement annihilé le code, il n'y a plus rien, et la seule chose qu'il y a, c'est un unique commit qui fait référence à Aaron Swart, qui est un développeur emblématique qui notamment a contribué à établir Creative Commons, le RSS ou Reddit. Je vous renvoie à sa bio. Ce qu'il faut savoir, c'est que Aaron, il s'est suicidé en janvier 2013 alors qu'il n'avait que 26 ans. Bon, revenons à nos histoires de NPM. Sur NPM, en fait, Faker.js, c'est près de 17 millions de téléchargements chaque semaine et Color.js, environ 22 millions. Ça pèse quand même assez lourd. Donc, on peut que imaginer les effets de cette grève inédite qui sont probablement considérables. Mais finalement, elles font quoi ces librairies? Alors, Faker.js, ça génère de fausses données pour les démos et probablement pour les tests, et Color.js, ça ajoute des couleurs dans les consoles JavaScript. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le 6 janvier, Marak nous apprend que GitHub a suspendu son compte. Pourtant, j'ai remarqué qu'il avait pu faire un petit commit le 7 janvier, donc le lendemain, sur Color.js. Donc ça, on n'en sait pas plus, j'ai regardé, mais on n'en sait pas plus. D'autre part, le gestionnaire de paquets NPM est revenu en arrière sur les modifications de Marac en publiant une version antérieure et en supprimant la dernière version de Color.js qui ne contient pas, en fait la version publiée sur NPM maintenant, ne contient pas le fameux code Liberty. Bon alors, pour conclure, on a finalement des gens un petit peu partout dans la communauté open source qui en ont marre de soutenir les grosses boîtes avec leur code sans avoir de retour. On se souvient notamment de la licence de MongoDB qui avait changé par rapport à des agissements d'une très grande boîte. Bref, il y a énormément de choses à dire sur cette news, sur la propriété intellectuelle du code, sur la possibilité des auteurs de faire ce qu'ils veulent de leur code, même s'il est libre, ou de la réaction hallucinante de GitHub qui a finalement fermé un compte. Alors justement, qu'est-ce que ça vous évoque à tous les trois ? On va commencer par Damir, parce que je sais que tu as réagi sur Twitter un petit peu.
Ouais, moi, ça fait quand même partie des grosses actus, on va dire, qui ont secoué ces débuts d'année, on va dire ça comme ça. Juste pour la petite information, c'est une petite coïncidence, mais Aaron Schwartz, en fait, s'est suicidé le 11 janvier. On enregistre le podcast le 11 janvier, donc à la date anniversaire, malheureusement. Effectivement, d'ailleurs, si vous le connaissez pas, je vous invite à vous renseigner sur la personne qui est très intéressante, qui a fait beaucoup de choses de très intéressantes, qui avait une vision assez passionnante sur les sujets, notamment de numérique et autres. Donc, pour le coup, ça c'est un autre sujet. Mais pour en revenir au premier sujet de cette faille, en fait, de ce que j'ai compris, notamment sur les conséquences que ça a eu sur ces projets-là, c'est qu'il y a beaucoup de projets, en fait, où, parce que je reviens un peu à l'origine avec cette faille, c'est que ça arrivait en fin d'année, donc pile pendant un peu les vacances, où de nombreux projets open source, où les mainteneurs partaient aussi en vacances et profitaient un peu des familles, parce qu'on sait aussi qu'être mainteneur d'un projet open source, c'est un vrai taf pour les grosses bibliothèques, et c'est souvent un taf qui est, on va pas se cacher, pas très bien rémunéré, qui est très important. Ce qui fait que en pleine vacances, ils ont un peu dû faire des choses dans la panique. Ça a été un peu le bordel, il y a eu des pressions mises par des grosses entreprises et on est revenu effectivement à cette question de financement de l'open source. Ce que je trouve d'un côté super intéressant, parce qu'il y a une vraie question de savoir, comme je disais, c'est pas la première affaire qu'il y a, mais de comment les grandes compagnies utilisent de l'open source et surtout à quel niveau. Et derrière, la marge qu'elles font avec ou les choses qu'elles n'ont pas besoin de redévelopper grâce à ça, au final, cette marge-là, ils la gardent pour eux en grande partie. Donc, c'est une vraie question qui se pose aujourd'hui, mais je pense que la vraie question derrière est plutôt comment bien lisser le financement et comment éviter que des modules, en fait, se retrouvent un peu, on va dire, perdus ou en tout cas très utilisés, mais pas très financés. Je dis ça pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui, on va pas se mentir, même si on n'aime pas les GAFAM, je suis pas leur plus gros fan. Ça reste quand même des gros contributeurs financiers au monde de l'open source en général. Si vous regardez la Linux Foundation, elle est en majorité banquée aujourd'hui par des compagnies comme Microsoft. Donc, c'est un fait. Ils donnent de l'argent, ils en donnent pas assez sûrement, ça on est totalement d'accord. Mais je pense que c'est un vrai problème de distribution aujourd'hui et d'identification des projets où il y a des besoins financiers. Et ça, c'est un projet qui va pour moi encore plus en avant de tout ça, qui est de savoir comment on s'occupe de savoir quel projet a besoin de quoi et mérite entre guillemets quoi comme retour sur investissement. Donc il y a sûrement un modèle à trouver. J'ironisais d'ailleurs, comme tu disais sur Twitter, sur le fait qu'il y aurait sûrement une solution. Je suis étonné que personne n'ait trouvé de solution encore à base de NFT sur les commits de projets open source, mais il est très probable qu'il y ait une solution qui existe. Mais je pense vraiment que le cœur du problème là-dessus, c'est pas tant le financement en réalité. Parce qu'on pourrait donner des millions, ça arrangerait pas spécialement le problème, c'est de les redistribuer, comment les redistribuer correctement. Moi, je sais pas si là-dessus on est tous d'accord, mais pour moi, c'est un gros point qui reste problématique, parce qu'il y a énormément de petits projets au final.
Ouais, de mon côté, je pense pas que ça soit vraiment qu'un problème de financement, c'est aussi la manière dont c'est utilisé par les boîtes. Il y a beaucoup de boîtes qui font de l'open source, qui utilisent de l'open source, mais qui ne font pas de l'open source, justement. J'ai bossé dans des grosses boîtes qui utilisaient beaucoup de produits open source, mais pour réussir à faire de l'open source sur son temps de travail, c'était très compliqué. OVH, pendant un moment, forcément, ils utilisaient des librairies open source, et pendant un moment, c'était formellement interdit d'avoir un compte GitHub dans le cadre de son boulot, et en dehors, c'était plutôt déconseillé aussi. Et en parallèle de ça, il y a beaucoup de projets open source qui sont massivement utilisés. Tu parlais de certains, mais celui qui a commencé à mettre tout ça en lumière, c'est OpenSSL, où il y avait deux développeurs qui se battaient en duel pour faire les principaux commits. Un des commits qui avait généré un des plus gros bugs avait été commité un 31 décembre à minuit, au hasard, avec une petite coupette de champagne. Donc, c'est assez comique qu'un bug arrive à ce moment-là. Je pense que c'est à partir de là, on a commencé à mettre le doigt sur le problème. Notamment pour OpenSSL, ils ont commencé à mettre en place du financement via des fondations. Et du coup, on retrouve à peu près le même problème sur des petits projets qui commencent dans un coin et qui finalement commencent à être massivement utilisés. Notamment Color.js, comment ça se fait que c'est utilisé aussi massivement et qu'il n'y a que une ou deux personnes qui font la maintenance de ce truc-là. Au-delà de ça, ce qui moi me choque un petit peu, c'est que ça ait réussi à écrouler des systèmes d'information, parce qu'en plus ils introduisaient un DDoS, pardon, puisque finalement au-delà du drapeau américain, ça tournait en boucle et quand ça tournait en boucle, ça écroulait le serveur. Et je comprends pas, parce qu'en plus c'est bloqué l'exécution. Donc je comprends pas comment ça peut arriver en prod si on a des systèmes de CI un tant soit bien conçus, parce que finalement si on fait un NPM run, normalement le Color.js doit bloquer. Donc je sais pas comment la CI a réussi à passer ce test-là. Et je ne sais pas comment on arrive à mettre un truc comme ça en prod. Alors peut-être qu'ils font du continuous deployment sans faire du continuous integration, mais bon, je pense que ça soulève pas mal de problèmes au-delà de la contribution aussi. Finalement, on en entend pas mal parler aussi, c'est à quel moment on utilise une librairie open source sans l'auditer. Alors, auditer de l'open source, c'est très compliqué, mais imaginez que ça soit une faille de sécurité qui a été introduite. Là, c'était un petit peu gentil. Il a affiché un drapeau et il a fait tourner un truc en boucle. Mais s'il avait vraiment voulu être malveillant, il aurait envoyé toutes les variables d'environnement qui peuvent contenir des secrets quelque part. Moi, ça me paraît un petit peu inquiétant au-delà du problème de l'open source. Et toi, René, t'en penses quoi?
Il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Donc clairement, c'est un problème identifié depuis pas mal de temps que effectivement les contributions à l'open source sont assez limitées. Pour beaucoup de contributeurs, c'est pas évident d'assumer la charge de travail sur certains projets. Après, il faut juste se rappeler que dans le principe de l'open source, pour les développeurs, en fait, c'est une fameuse clause qui est use at your own risk. Donc, en gros, ils nous doivent rien. Enfin, ils doivent rien aux utilisateurs. Donc, je sais qu'il y a une problématique aussi derrière de pression des utilisateurs qui ont demandé aux développeurs que les failles soient corrigées, etc. Mais dans l'absolu, les développeurs ne sont pas obligés de répondre. Donc, ils font souvent de leur mieux. Et on peut que les féliciter pour ça. Mais voilà, il y a aucun contrat ou quoi que ce soit qui est vis-à-vis des utilisateurs. Voilà, donc faut pas oublier ça. Et je pense que certains développeurs sont en droit de se mettre un peu effectivement en grève et de pas forcément répondre à toutes les sollicitations. Voilà, ça c'est peut-être un premier point. Après, oui, il y a un manque de financement. Peut-être qu'une des idées qui serait derrière, c'est que au niveau des développeurs, moi je pense qu'il y a parfois des choses qui seraient assez salutaires. C'est par exemple de visibiliser en fait pour chaque feature, chaque bug, Le temps que ça prend et peut-être mettre peut-être en face un prix, je sais pas que je sais que ça s'est déjà fait sur certains projets. J'ai échangé un peu sur Twitter sur ce sujet-là. On m'a dit que c'est déjà arrivé sur certains projets, de manière à rappeler qu'en fait c'est pas voilà, c'est pas réellement gratuit, quoi. Il y a toujours quelqu'un qui fournit un effort. Et je pense que ce serait pas mal de visualiser un petit peu la charge de travail derrière certaines features pour que les gens se rendent compte que c'est un vrai travail derrière, il y a beaucoup de boulot et que forcément les contributions sont les bienvenues.
Alors,
Je me permets, oui, je me permets de rebondir juste sur ce que tu disais, ce qu'on disait, il y a deux choses. Moi, quand je disais financement, en fait, je parlais des contributions en général qu'on contribue financièrement ou avec des devs, parce qu'il y a aussi beaucoup de contributions qui sont faites par des gros GAFAM, hein, notamment des trucs comme ces groupes, etc., qui ont été en grande partie externalisés à la base, c'était chez Google. Donc, mais il y a vraiment un problème là-dessus. Effectivement, moi, ce que je comprends pas, et comme Nicolas a dit, c'est qu'il y a un vrai problème aussi qui est mis en évidence de comment ça arrive en prod. Et la deuxième chose, c'est comment ça en arrive à mettre de la pression. Normalement, tu as quelque chose qui ne fonctionne pas. Déjà, ça aurait pas dû être en prod. Effectivement, la CI aurait dû dire, il y a un problème, arrête. Et au-delà de ça, on aurait dû se dire, on fixe les versions et on dit que ça, on prend telle version. On freeze la version tant qu'elle n'est pas corrigée. Donc, des boîtes qui soient littéralement totalement bloquées à cause de ça. Ça montre aussi un problème d'organisation et de compréhension. Après, il y a une autre problématique que soulevait Nicolas, qui est de notamment pouvoir auditer les bibliothèques. Je pense qu'aujourd'hui, c'est humainement plus possible. On a tellement de dépendances et d'interdépendances. Si vous regardez les chaînes de dépendance sur des choses comme Python, comme N, comme JS, Node.js, etc., les chaînes de dépendance sont abominables. Ça prendrait des jours pour analyser chacune des briques, sachant qu'en plus de tout ça, elles évoluent entre-temps. Donc c'est un peu le vider un puits sans fond, quoi. Donc je suis même pas sûr qu'on puisse considérer du coup cette option. Et on l'avait bien vu avec OpenSSL, comme tu dis, qui était un très bon exemple, qui était le premier vrai exemple de faille qui a mis en lumière des problèmes sur l'open source, qui à l'époque, il me semble, avait résulté notamment par un audit de l'équipe de BSD de ce code source qui était maintenu avec deux, il me semble, c'était des chercheurs d'ailleurs en cryptographie qui faisaient OpenSSL et qui étaient assez déconnectés des bonnes pratiques de développement sur certains points. On s'est rendu compte qu'il y avait plein de problèmes en fait, parce qu'il n'y avait personne d'autre pour vraiment contribuer dessus, pour vraiment pousser le truc, vu que c'est un sujet ultra précis. Et en fait, quand des gens ont commencé à s'y intéresser, à auditer le truc, ce qui arrive souvent quand on découvre une faille, en fait, on en découvre en chaîne, c'est ce qui est arrivé là, parce que on commence à analyser ce qui a été fait. Donc pour le coup, dans les cas-là, effectivement, il y a aussi un problème, on va dire, d'arriver à attirer des gens sur les projets, quoi. Ça, c'est un problème que vous remontiez aussi, quoi.
Ouais, alors je vais prendre le rebond. Vous parlez de faille, mais pour moi c'est pas une faille, hein. Et c'est ni un code malicieux, c'est vraiment pour moi c'est la grève du programme informatique, et c'est à mon avis un nouveau moyen d'action qui va arriver, parce que finalement nous quand on est développeur ou administrateur système, on peut faire grève, on peut arrêter de travailler, mais par contre le code qu'on a produit lui il continue. Et là pour le coup, alors il s'agit de librairie libre dont le propriétaire du code, donc Marac, a décidé en fait d'arrêter que ces librairies fonctionnent. Alors en effet, il y avait des boucles infinies, etc. dedans. Donc là, par contre, c'est aux utilisateurs de ces librairies-là de faire attention, en effet, en fixant, en épinglant nominativement les versions. Je pense qu'en fait, et je ne sais pas si vous connaissez bien Node, mais quand on gère les paquets Node, on peut, comme pour les paquets Python d'ailleurs, on peut dire à partir de cette version-là ou cette version-là exactement. Et je pense que beaucoup font à partir de cette version-là, mais ne fixent pas explicitement la version. Ça, c'est un truc que je commence à faire énormément parce que j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de problèmes justement quand on buildait des applications avec des versions minimum et pas des versions fixées.
T'as
Moi,
aussi beaucoup de. Je
vas-y.
rebondis vite fait là-dessus. T'as pas mal de systèmes de gestion de version. C'est Poetry en Python et Bundler en Ruby, où en fait tu définis un ensemble de règles pour dire je veux telle librairie dans telle version, telle librairie entre telle et telle version, etc. Et tu fais je mets à jour mes dépendances, il va récupérer toutes les versions les plus à jour. Tu lances tes tests, si tout va bien, il va te générer un fichier de lock Et ce qui fait que toutes tes librairies vont toujours être exactement dans ces versions-là, que ça soit en développement, en production, etc. Et je pense que ça, c'est une bonne pratique. Et c'est peut-être ce qui manque à l'environnement NPM, en l'occurrence. Parce que finalement, là, le problème qu'il y a eu, peut-être que les gens qui utilisaient ColorJS n'avaient pas conscience que c'était utilisé, donc ils pouvaient pas fixer cette version-là.
Non, dans Node, oui. Juste, je réagis, dans Node, tu as bien une notion de fixe. C'est-à-dire, tu as un package.lock. En fait, ce qui peut se passer, c'est que les librairies qui utilisent ColorJS, parce que là, ColorJS, on est au bas niveau, hein, on est au niveau de la console, il est probable que ces librairies-là aient mis à jour ColorJS, etc., et en chaîne, et il est possible que ce soit ça l'origine du problème. Moi, je ne sais pas, mais je vois un truc comme ça.
Moi, je vois que ça, en fait. Sinon, c'est qu'il y a un autre problème. Même vu que c'est un truc bas niveau, je pense vraiment que c'est juste qu'une imbrication. Comme on disait, tout est imbriqué. C'est des poupées russes. Donc, il y a un moment, ça a dû être imbriqué quelque part et build automatiquement.
Ouais. Après, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est la notion, justement, de quand on est développeur, comment est-ce qu'on peut faire valoir son point de vue. Parce que finalement, faire grève, déjà. Alors, en France, parmi les techs, c'est très, très mal vu. Et peut-être que c'est quelque chose qu'on doit reprendre. Comment est-ce qu'on peut interagir sur le monde? Ça, c'est des sujets qui m'intéressent. On va pas les traiter là, mais en tout cas, ça a fait réfléchir ce genre d'action. Moi, je trouve ça intéressant, même si les impacts sont importants. Mais comme je le dis, les impacts sont côté utilisateur. Et là, on vient de donner des pistes pour que les utilisateurs se fassent pas avoir. Et sur le financement du libre, justement, je vais pas embrayer dessus parce que j'ai envie, moi, de faire une émission libre antenne dessus. Sur le financement du libre et de l'open source au troisième trimestre. Donc là, je vais faire un appel à nos auditeurs et auditrices. Si vous faites partie d'une boîte qui vit du logiciel libre et que vous voulez en discuter, eh ben, contactez-moi sur Twitter ou LinkedIn parce que du coup, j'aurai besoin de co-animateurs et co-animatrices. Et évidemment, comme ce sera une libre antenne, toutes les personnes qui passeront dans le live pourront parler et discuter. Et là, j'aimerais qu'on aborde vraiment les pistes de financement, que ce soit au niveau des fondations, que ce soit au niveau, on peut imaginer de la redistribution au niveau des États. Il y a des initiatives comme Open Collective, je ne sais pas si vous connaissez, qui font de la redistribution aussi. Il y a plein de pistes. Mais par contre, on parle beaucoup de dons, et moi je pense qu'il y a probablement autre chose que les dons pour faire vivre l'open source. Et comme on l'a dit, je pense que le plus gros manque reste en termes de petites mains ou de personnes qui participent et contribuent à ces logiciels-là. Est-ce que vous voyez une autre chose à dire sur le sujet?
Après, on peut peut-être juste dire que. En tout cas, ça a fait beaucoup bouger les choses. Après, on peut discuter si c'était la meilleure manière de faire bouger les choses. C'est vrai que là, il y a beaucoup d'acteurs qui ont été touchés. Et peut-être qu'il y avait moyen de faire ça de manière un peu plus soft, au moins dans un premier temps. Je ne sais pas. Quel est votre avis là-dessus? Voilà. Moi, je sais que j'aurais peut-être pas forcément à sa place, j'aurais pas forcément fait ça.
Bah, Marac avait dit il y a déjà plus d'un an qu'il ne voulait plus travailler sur ce genre de choses comme ça. Ça a été repris sur Y Combinator. Donc, d'abord, il y a eu une discussion et après, il y a eu l'action, un an plus tard. Donc après, bon, je ne sais pas comment faire. Moi, je trouve que c'est une piste intéressante. Je ne sais pas si tous les projets doivent faire ça. Après, pour faire bouger les choses, je ne sais pas quelles ont les possibilités des projets open source, en fait.
Bah après, c'est un peu plus compliqué qu'avec une entreprise. Une entreprise, tu fais grève, tu impactes un patron qui, dans ses KPI, voit globalement que la production ralentit ou est coupée, donc il perd de l'argent. Là, sur l'open source, c'est beaucoup plus dur à quantifier, c'est beaucoup plus dur à gérer. Je pense que le questionnement là-dessus est bien plus tricky que ce qu'on voudrait croire. Et il y a sûrement des moyens d'être efficace ou de faire monter des besoins ou des choses comme ça, mais c'est sûr que c'est plus compliqué que ça. Je suis assez d'accord que je trouve que l'action est un peu on va dire très direct, quoi, on va dire ça comme ça.
Bah, moi je pense qu'il pouvait juste simplement s'arrêter de contribuer, je sais pas, ça aura pas eu le même impact probablement, mais et mettre une bannière en disant ben je contribue plus parce que c'est plus possible, voilà, faut que je dégage du temps, et pour dégager du temps il faut que j'ai du financement, tu vois, expliquer Là, ça me paraît un peu brutal et
Encore une
voilà,
fois,
ça
c'est ce qu'il
embête
avait
beaucoup.
fait il y a un an, en fait. Après, moi, j'en reviens sur la propriété intellectuelle du code, même si le code est libre, qu'on peut l'utiliser, on peut le forker, etc. Marac reste le propriétaire du code qu'il a produit. Donc, s'il a envie de l'enlever, il l'enlève. C'est ce qu'il a fait pour l'un de ses deux projets. Pour l'autre, il a fait autre chose. Ça, c'est des sujets qui, à mon avis, sont pas encore très bien pensés. Et le fait qu'on puisse se dire aussi, un projet libre, il peut disparaître du jour au lendemain. On ne parle pas de projet abandonné, on parle de projets qui disparaissent des dépôts complètement.
Alors ça, il me semble avoir lu quelque chose, mais il faudrait que je retrouve le lien. Il me semble qu'il y a justement des sécurités là-dessus pour garder notamment une copie si jamais la personne remove un tag ou remove carrément son projet pour éviter que ça pète tous les dépendances en chaîne. Hein. De mémoire, il y a des sécurités là-dessus sur la plupart des gestionnaires de package en fait. Faut vérifier, il faudrait que je retrouve le lien parce qu'il me semble avoir lu ça quelque part il y a quelques années.
Bah,
Surtout
parce
que le
que
NPM est géré par GitHub maintenant, non?
Par
Oui,
Microsoft, ouais.
NPM, ouais, appartient à Microsoft.
Justement, vous n'êtes pas exprimé sur la suspension du compte par GitHub. J'aurais cru que ça vous aurait aussi interpellé.
Bah ouais, je pensais qu'on allait l'aborder. En fait, pour moi, le problème, c'est que, alors, je suis pas très Microsoft, voilà, c'est pas forcément, voilà, l'entreprise que j'apprécie plus. Mais là, en l'occurrence, je pense que c'était difficile pour eux. Enfin, je sais pas s'il y a il y avait une bonne action à faire, parce que soit ils bloquaient en disant c'est peut-être quelque chose de malveillant et ben les gens leur reprochent qu'ils aient bloqué, soit ils bloquaient pas et laissaient passer le truc et on allait dire ouais, ben ils font pas leur boulot. Je crois que quoi qu'il là pour le coup qu'ils aient choisi une action ou une autre, ils auraient été critiqués par des personnes. Donc je sais pas dire ce qui est le mieux. Moi je pense qu'ils ont enfin en l'occurrence ce qu'ils ont fait c'était peut-être la bonne chose à faire parce que je pense qu'ils n'étaient pas sûrs à ce moment-là que ce soit pas une attaque ou quelque chose de malveillant et ils ont cherché à protéger les utilisateurs et c'est ce qui me semble être le plus logique. Après, on peut discuter.
Nicolas a l'air très d'accord avec ce que tu dis.
Ouais. Alors déjà, je voudrais rebondir sur un truc. C'est, je pense que ce qu'il a fait, il l'a fait comme un acte militant, mais je pense qu'il n'avait pas imaginé que ça aurait ces conséquences-là. Parce que comme c'était un truc pour faire juste de la console, il a dû s'imaginer, ouais, bah ça va casser de la CI, et puis ça va pas se retrouver en prod. Donc je pense qu'il faut pas l'imaginer comme une personne malveillante. Je pense qu'il s'attendait pas à ce que ça parte en prod et à ce que ça bloque autant de systèmes. Après, de là à bloquer son compte GitHub, je trouve que ça a été démesuré. Je ne sais pas si ça vient du fait que ça soit Microsoft ou juste GitHub. Je pense que ce qu'ils auraient simplement dû faire, c'était, j'imagine qu'il doit y avoir des administrateurs NPM qui suppriment la version qui posait problème et qui l'empêchent de republier une autre librairie, mais laisser son accès à GitHub et son code source disponible.
Ouais, alors par contre, je suis dans l'idée, je suis d'accord avec toi, mais c'est une vision, je pense, qui est très utopiste en fait du monde où les personnes les personnes slash robots qui vont s'occuper de vérifier si c'est malveillant ou pas, ont l'intelligence d'avoir un suivi derrière, de voir comment ça a été fait, le contexte et tout. Faut voir que dans beaucoup de boîtes ricaines, et on l'a vu dans plein d'affaires sur Twitch, la stratégie est d'être très restrictif. Et après, on débloque si on voit qu'il y a besoin, mais de base, d'être très restrictif pour éviter tout problème. Parce que sur le coup, en fait, que ce soit un bot ou un humain, s'il n'a pas le contexte, il voit du code comme ça qui a été injecté, ça peut très bien être lui qui manifeste, effectivement, entre guillemets, qui manifeste un désaccord, mais ça aurait très bien pu être quelqu'un qui a pris son compte et qui est en mode, bah, je veux foutre la merde ou quelque chose. Donc ça, l'intention, en fait, la personne, je doute que la personne ou que le robot a jugé ça. Mais après, voilà. Moi, je pense que, encore une fois, c'est comme toutes les actions un peu automatiques et rapides à la con. C'est souvent brutal. C'est clairement pas ce qu'on ferait avec le recul. Mais là, je pense que dans leur cas, j'ai du mal vraiment à critiquer cette action parce que déjà Microsoft et GitHub ont fait bien pire que ça. Mais surtout parce que pour moi, ça se défend honnêtement. Surtout qu'ils l'ont débloqué hein, de mémoire dès qu'il a dit que c'était pas un hack et qu'il avait encore son compte. Il me semble qu'ils l'ont débloqué. Donc moi, ça me paraît cohérent avec la stratégie très US de se dire quand il y a un problème, on banne, on bloque et on verra après.
Ouais.
En fait, c'est ce que je voulais dire, c'est pas forcément un acte malveillant, y compris le fait d'avoir bloqué son compte.
Ah oui, d'accord.
Oui, je pense, en effet, j'ai pensé au fait que GitHub ait bloqué ce compte-là en soupçonnant qu'il y avait un truc. Après, les commits appartiennent quand même à Marac. A priori, GitHub a supprimé l'accès à Git avec mot de passe et maintenant on peut passer que par des clés SSH. Donc moi, j'encourage les gens à signer leurs commits maintenant pour bien prouver que c'est vous et pour éviter de vous faire piquer. Bon, il faudrait vous faire piquer votre clé privée SSH avec votre passphrase parce que vous mettez évidemment une passphrase sous vos clés SSH quand vous committez. Mais en plus, signez vos commits comme ça, vous pourrez dire, eh non, c'est moi, j'ai bien fait ça en connaissance de cause. Ben, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Et ben justement, vu qu'on parlait de financement, ben René va nous parler de financement d'un projet.
C'est un peu le contre-pied et une bonne nouvelle en fait. En fait, c'est une nouvelle qui est tombée, donc ce sera dans les show notes, sur GNU-PG, donc en fait qui est un outil de chiffrement enfin, très standard sur Linux et sur d'autres plateformes. Et en fait, GNU-PG, il y a quelques années, il a souffert justement un peu de ce problème-là, du manque de contribution et de financement. Et bon, c'est quand même un outil majeur utilisé par beaucoup de personnes et ça a été très compliqué. Et donc, cette nouvelle qui est sur le site, enfin, relayée par le site linuxfr.org, nous apprend que GNU-PG est devenu économiquement viable et n'a plus besoin de dons. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle et ils ont donc arrêté la campagne de dons. Ils sont même prêts à rembourser certains contributeurs qui ont donné récemment. Donc il y a une société en fait qui s'est montée et qui a été créée par on va dire un des fondateurs du projet et donc qui a trouvé un business model pour faire fonctionner en fait GNU-PG. Et c'est aussi lié aussi un peu au contexte, on va dire économique et des besoins de chiffrement en Allemagne. En fait, GNU-PG a été validé pour un certain niveau de confidentialité au niveau du gouvernement allemand pour échanger des documents. Je rentre pas trop dans le détail, mais sera beaucoup mieux expliqué dans la note que je vous encourage à aller voir. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que comme cet outil est utilisé pour les échanges, il y a un autre outil en parallèle qui en fait est devenu obsolète. Donc c'est un outil qui est fourni par l'équivalent de l'ANSI mais allemande, qui s'appelle Chiasmus, qui en fait a été déprécié. Et donc ça ouvre entre guillemets la porte à GNU-PG et une autre solution propriétaire, mais donc une perspective d'avoir de nouveaux clients. Et donc voilà, un financement bienvenu. Pour faire progresser cette application et la maintenir dans le temps. Et donc voilà, c'est une bonne nouvelle et voilà un moyen. Alors c'est aussi ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une espèce de synergie entre guillemets entre le public, le gouvernement et les auteurs de GNU-PG. Et voilà, je trouvais que cette nouvelle était intéressante et que parfois il y a des logiciels qui arrivent à trouver un bon business model et j'espère que ce sera pour vrai sur le long terme.
Alors,
Et je vous laisse la main pour.
juste, j'ai pas bien saisi quel était le business model derrière. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Ou alors j'étais distrait quand tu l'as dit?
Non, alors dans le business model, non, j'ai pas forcément expliqué. C'est un business model. Donc le logiciel en tant que tel, donc avec GNU-PG, on va dire classique, ils en font une espèce de fork, mais sans modification du logiciel en tant que tel. Et le business model, c'est un business model classique sur le monde du logiciel libre. C'est du support, de la compte et voilà, du développement de features pour les administrations. Voilà, c'est un modèle de financement classique. Par contre, vraiment, voilà, il y a une opportunité du fait de l'arrêt de la solution, on va dire, qui a été proposée précédemment par le gouvernement, enfin par l'ANSSI allemande, on va dire. Et du coup, de nouveaux clients qui vont certainement choisir cette solution. Et du coup, ça fait un apport de clients importants. Et donc, voilà, des recettes qui rentrent et suffisantes, entre guillemets, pour assurer la viabilité du projet.
C'est d'ailleurs un excellent moyen de financer de l'open source. C'est comme nos impôts, c'est pour construire des choses de bien commun. Pourquoi donner de cet argent à des Microsoft et compagnie et ne pas l'investir dans du logiciel libre et ou de l'intégration de ces logiciels libres dans les écosystèmes dont on a besoin? Par exemple, tous les rectorats, plutôt que de payer des solutions comme Teams, c'est BigBlueButton, je crois, qui commence à bien marcher et je crois que c'est une solution open source. Donc c'est bien, utilisons de l'open source, contribuons à l'open source. Et contribuer à l'open source, c'est pas forcément que faire du code, c'est aussi faire de la documentation, faire des intégrations autres pour les installer plus facilement et ainsi de suite. Et toi, Damir, tu vois ça comment?
Bah c'est une bonne nouvelle. Moi, j'aurais du mal à dire que l'inverse, quoi. Surtout pour quelque chose comme ce projet qui est quand même très important, hein. Moi, j'utilise au quotidien. Donc, c'est vrai que ça, c'est bien qu'il soit maintenu. C'est même mieux. Et oui, l'open source a, je pense, le moyen d'être financé, a le moyen, on va dire, de réussir à être quelque chose de viable. Mais pour ça, il y a un gros travail, je pense, comment dire, de vulgarisation, d'évangélisation, même si je déteste ce mot, à faire auprès de certains organismes, notamment publics, qui sont pas toujours très au courant et qui, pour beaucoup, il y a quand même ce modèle inconscient dans la tête du grand IBM ou Microsoft où tu achètes ta licence, derrière il y a des gens qui travaillent, tu es sûr, il y a une entreprise qui est derrière. Et pour moi, le plus grand frein là-dessus, c'est vraiment de comprendre que l'open source, c'est pas parce que c'est fait de manière, on va dire, décentralisée et en contribution que c'est pas sérieux. Mais là, c'est bien que des produits comme ça arrivent à passer cette barrière et je pense que ce sera de plus en plus le cas parce qu'aujourd'hui, et c'est une réalité, l'open source est utilisé par tout le monde et comme on disait au début, même les plus gros.
Ouais, je pense que le mot que tu cherchais, c'est vraiment éducation. Pour moi, voilà, faut un peu éduquer les utilisateurs à, voilà, à pas être que de simples, justement, pas forcément être que des simples utilisateurs et comprendre qu'à un moment, c'est salutaire de s'appuyer sur des choses solides et pour s'appuyer sur des choses solides, ben, il faut aussi de temps en temps contribuer pour, alors, il y a différentes façons en fonction de ses moyens. Mais voilà, je pense que c'est important de vraiment comprendre ça, parce que si demain, voilà, le projet disparaît, ben c'est finalement tout le monde qui est embêté en fait.
Ouais, et du coup, moi je trouve ça intéressant les business models qui se tournent autour de l'open source et du libre. Mais finalement, on retombe un peu toujours sur les mêmes choses. Ça, c'est soit du support et du service, soit de l'hébergement comme nous on fait. Et du coup, en fait, il faut de toute façon, il faut un besoin business en face, je pense. Et c'est ça le truc, c'est que le logiciel libre en tant que tel, il y a, à part les dons, il n'y a rien pour le financer, mais quand il est accolé à un besoin business, là, on peut développer du service, de l'hébergement, du support, etc. Je pense que, je ne sais pas s'il y a d'autres pistes, en tout cas, je serais curieux de les connaître. Moi, je pense qu'il y a des pistes à travailler en termes de lever de l'impôt et de créer des communs, notamment vis-à-vis des États. Mais ça, c'est ce genre de choses, je pense que j'en parlerai dans la libre antenne parce que je voudrais un peu travailler ça. Mais je pense qu'il y a des pistes là-dessus qu'on n'a pas encore vraiment creusées, j'imagine. Et évidemment, c'est une bonne nouvelle, c'est sûr. Eh bien, je vous propose qu'on passe à la suite, sauf si vous voulez encore continuer sur GNUPG.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
A priori. qu'on va passer à la suite. Alors, avant de passer à la suite, ce qu'il faut que tu saches, cher auditeur, c'est que tous les animateurs de Radio DevOps et Actu DevOps font partie de la communauté des compagnons, et donc tu peux venir nous rejoindre dans la communauté des compagnons du DevOps et venir discuter avec nous de ces sujets-là, les approfondir, et puis parler tout un tas d'autres sujets, puisqu'on accueille des nouveaux tout le temps, toutes les semaines maintenant. Il y a des gens qui nous rejoignent et qui discutent de plein de sujets liés au cloud et au DevOps et au monde du libre, parce que le monde du libre, ça fonde Internet, mine de rien. Et Damir nous a réservé une petite news qui va me faire plaisir, je pense.
Mais effectivement, on va parler d'un sujet que tu adores et je sais que tu aimes en parler pendant des heures. On va parler du fameux Health Data Hub de Microsoft qui a été signé avec Microsoft. Donc, je vais faire un peu de remise en contexte sur tout ça parce que vous n'avez peut-être pas suivi l'histoire. Donc, il y a quelques temps, quelques années même, il me semble, il y a eu la mise en place d'un projet sur la structure publique, notamment au niveau du ministère de la Santé, de centraliser toutes les données. Donc, ce qui est une action assez classique, on va dire, en termes d'industrie informatique ces dernières années. On va essayer de rassembler toutes ces données dans un centre de données à part pour faire du traitement dessus, pour essayer d'en tirer avec de l'intelligence, possiblement des données, des tendances et des choses comme ça, donc faire de la statistique, etc. Donc pour ça, il faut d'abord regrouper toutes les données qui sont souvent un peu éparpillées à gauche, à droite. Donc le gouvernement a annoncé un projet ambitieux qui était de faire ça, en tout cas au niveau de la partie santé. Donc du coup, ils ont lancé ce projet il y a quelques temps, et assez rapidement, ça s'est terminé avec la décision de partir sur le cloud Azure de Microsoft, donc la solution data de chez nos amis de chez Microsoft, si j'ose dire. Et pour le coup, ça a déjà fait pas mal parler, parce que il y avait l'histoire, bien sûr, de la confidentialité, de la souveraineté qui avait été mis en avant. Je vais pas m'étendre non plus trop là-dessus, mais il y a eu des points qui ont été soulevés. Il y a eu beaucoup de discussions, mais le choix avait été fait. Mais Azure ayant toutes les certifications, notamment HSDS, il me semble, pour la certification d'hébergeur données de santé, ça posait pas de problème, on va dire, légal à la conclusion du contrat. Il restait globalement plus grand chose à avoir, mais il restait quand même d'avoir notamment un agrément de la CNIL. Et cette demande d'agrémentation a été mise en pause pour l'instant, donc elle a été retirée de la part du ministère, ce qui fait que pour l'instant le projet est tout simplement mis en pause. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est la fin de ce projet? Je ne pense pas, et ça n'a pas l'air d'être le cas. Faut plus voir ça comme une pause qui a un changement de stratégie. Et on va pas se mentir, dans quelques mois, il y a aussi un événement assez important au niveau de la politique française qu'on appelle les élections. Donc, clairement, vu le contexte, vu que ça a déjà soulevé pas mal d'opposition, le projet est mis en pause pour l'instant, et il y a aussi autre chose qui est arrivée entre temps, en fait, depuis ces décisions-là, c'est qu'il y a eu la stratégie cloud du gouvernement qui a été dévoilée, stratégie qui est mise notamment sur des solutions hybrides, le temps de monter des géants du cloud. Et pour le coup, on pourrait aussi voir ça comme une manière de temporiser, possiblement attendre l'arrivée de services comme Blue ou des choses comme ça qui seraient du coup du cloud de type Azure ou AWS ou GCP, mais hébergés chez des acteurs français. Donc je pense qu'il y a sûrement une double idée qui est de patienter avant que ces offres soient disponibles pour dire on est hébergé sur des serveurs français. Et il y a aussi des serveurs hébergés en France par des entreprises françaises. On construit pas de serveurs. Et du coup, il y a une deuxième chose qui est bien sûr les élections. On veut éviter de créer trop de polémiques, on va dire. Mais en tout cas, c'est une news assez intéressante, mais il faut vraiment avoir en tête que le projet n'est pas stoppé, il est juste mis en pause pour le coup. Donc du coup, qu'est-ce que vous en pensez de cette décision? Toi, Christophe, qui adore ce sujet, qu'est-ce que tu penses?
Eh ben, c'est bien, parce que ça va nous permettre de nous poser des questions sur où est-ce qu'on héberge nos données de santé, de manière... Si on pousse un petit peu nos données régaliennes, la santé, la défense, etc. Encore que la défense n'est pas touchée par ce genre de choses, parce que j'ai appris qu'il y avait vraiment une séparation, et pour le coup, c'est vraiment hébergé par l'État. Moi, avant l'émission, genre 2 heures avant l'émission, je suis tombé sur un article de la revue du Digital, dont je voulais en parler justement, parce que ta news me fait vraiment penser à ça. C'est le Data Lake, donc le Data Lake for Nuclear. C'est un projet français. C'est comment est-ce qu'on va collecter les données qui sont en théorie, qui sont pas utilisées, on va collecter des données comme des vidéos, la télémétrie, des données brutes ou des données qui sont renseignées manuellement dans toutes les centrales nucléaires, et on va les envoyer dans ce data lake. Il s'avère que pour ce data lake a été choisi le cloud Azure. Et du coup, ça me fait écho, ce genre de choses, parce que on parlait de santé, là on parle de nucléaire, qui sont quand même deux fournisseurs de données assez sensibles, et moi je me pose quand même réellement des questions là-dessus. Et donc j'espère que le data lake for nucléaire va suivre la même piste, même si a priori c'est pas encore gagné, puisque ça vient juste d'être annoncé. Je vous ai séché ou je vous ai mis le seum, c'est pas possible. Allez, Nicolas.
Non, bah, ça avait fait pas mal de bruit. De manière globale, pour tout ce qui est données de privées européennes, que ça soit mis sur des plateformes américaines, moi, ça me hérisse toujours les poils. Après, la problématique, c'est aussi la stabilité des alternatives européennes. Du coup, l'argument tient plus si on met ça chez Microsoft, parce qu'Azure, visiblement, la stabilité, c'est pas vraiment leur fort. Mais par contre, pour avoir essayé OVH et AWS, il y en a un qui est pas cher, mais qui se casse souvent la gueule, et il y en a un qui est plus cher, mais dont la fiabilité est pas vraiment à remettre en cause. Je reste quand même un partisan d'OVH, mais quand tu te retrouves avec ton serveur qui est par terre et qui refuse de démarrer et que tu te retrouves avec un pricing un petit peu bizarre, ça me fait toujours un petit peu grincer des dents. Après, il y a un autre truc à prendre en compte, c'est quand tu mets des données comme ça sur des clouds américains, de plus en plus de boîtes qui ont des données sensibles à héberger vont chiffrer les données. Donc finalement, les données qui sont stockées sont chiffrées et sont inutilisables si on n'a pas la clé de déchiffrement. Et pour ceux qui sont vraiment intelligents, ils s'arrangent pour que les clés de chiffrement-déchiffrement ne soient pas au même endroit, donc soient indéchiffrables par ces clouds américains. Mais c'est Clav Klaba qui avait réagi par rapport à ce Health Data Hub et disait « bah oui, on est moins performant, bah oui, on est moins bien, oui, on a moins de fonctionnalités, on n'a peut-être pas autant d'intelligence artificielle et ainsi de suite. Mais d'un autre côté, si vous mettez toujours ça chez nos concurrents, vous continuez à les alimenter eux et nous, bah, on peut pas faire évoluer nos produits. Venez chez nous. » Hébergez vos données chez nous, venez discuter avec nous de ce dont vous avez besoin. Une fois que vous aurez mis tout votre data hub chez nous, ben on aura peut-être les moyens de développer toutes les choses dont vous avez besoin. Donc en fait, c'est toute la problématique du cloud européen, c'est que on est en retard, mais si on est en retard, c'est parce que on met tout aux US, et tant qu'on va tout mettre aux US, ben on va creuser encore un peu plus le fossé. Et du coup, on n'arrivera jamais à les rattraper. Donc, si vous avez des données à héberger, essayez de regarder plutôt des alternatives au moins européennes. Bon, je pense qu'en France, on n'a vraiment pas à rougir par rapport aux autres pays. Donc, OVH, Scaleway sont des alternatives vraiment intéressantes. Regardez, si ça tombe, ça peut largement suffire pour ce que vous voulez faire. Et ils ont la capacité de grossir. Si vous savez correctement monter une infra, vous n'avez vraiment pas besoin d'AWS. Et comme c'est moins cher, vous prenez deux fois plus de machines pour avoir deux fois plus de dispo.
Après, c'est moins cher, mais tu as plus de trucs à redévelopper derrière. Non, mais je suis d'accord qu'il y a un vrai problème, c'est qu'il faut qu'on investisse sur... Mais après, là, je dérivais un peu sur la souveraineté du cloud. Mais on a un vrai souci, c'est qu'on a quand même un gros retard, il faut l'avouer. Et je parle pas que niveau technique, hein. Je parle aussi niveau commerce, je parle aussi niveau certification, je parle aussi à plein de niveaux, on a vraiment du retard. Et pour le coup, je travaille sur du cloud français, je vois rien que pour avoir une certif type ISO 27001, vous éliminez 99% des clouds français parce qu'ils vous fournissent pas les métriques de base ou les logs d'audit de base. Donc déjà là-dessus, vous bloquez beaucoup de boîtes. Mais l'idée derrière, et c'est vrai que c'est un problème, c'est qu'il va falloir qu'on investisse un moment sur nos solutions, on va dire, souveraines. Mais il faut aussi qu'on soit conscient qu'on a du retard et que ça va nous coûter beaucoup plus cher au départ. Parce que là, typiquement, quand vous allez chez du Microsoft, quand j'ai chez du Amazon, même du Google avec du BigQuery, BigQuery, des choses comme ça, bah, vous avez des solutions sur étagère, en fait. Vous lancez votre data lake, vous donnez les paramètres, il va créer votre data lake, il va s'occuper de le scale, de le renonder, etc. Faut bien avoir conscience que, ouais, nous, quand on va devoir le faire, si vous voulez le faire sur OVH ou autre, c'est faisable, mais ça va vous demander beaucoup plus de temps. Donc, ce qu'on gagne, en fait, avec le coût des serveurs, on va le perdre en partie, en tout cas, à ce niveau-là. Et ce qui est tout à fait normal, en fait, ce qui a de la valeur dans le cloud, c'est le logiciel, même si on dit c'est que la machine de quelqu'un d'autre. Au final, quand on dit c'est que la machine de quelqu'un d'autre, c'est vrai, c'est faux. Parce que on nommait toute cette partie software qui est le cœur aujourd'hui du cloud. Et pour le coup, après, c'est des questions de souveraineté, encore une fois. Il y a vraiment cette idée où, à un moment, on va devoir investir en interne. Et encore une fois, le choix du gouvernement avec l'histoire de Blue, tout ça, même si je suis pas d'accord avec, il y a peut-être aussi un monde où c'est juste une phase de transition et c'est pour temporiser le temps qu'on arrive à monter des choses, à développer des choses, parce que c'est pas instantané. Mais après, je connais pas leur intention derrière. Mais dans un monde idéal, c'est peut-être le cas. Je défends personne, parce que je peux pas les blairer. Hein. Mais que ce soit bien clair. Mais là-dessus, j'essaie de garder espoir, en tout cas.
Et du coup, pour le coup, c'est plutôt que de mettre ton argent dans une solution tout intégrée, est-ce que ça serait pas plus intéressant de payer des gens à intégrer des solutions? Parce que finalement, leur data lake, leur BigQuery, machin, etc., il y a peut-être des solutions qui existent déjà, probablement en open source en plus, qui pourraient être installées en France ou en Europe.
La vraie notion derrière, c'est la notion de risque. C'est qu'aujourd'hui, c'est très dur. Et ça pour le coup, je l'ai vu chez beaucoup de clients, où on se dit, on préfère prendre du cloud parce que, en fait, si demain on doit monter une équipe pour refaire tout à zéro, on n'est pas sûr de les trouver. Et si on les trouve, on n'est même pas sûr de mener le projet à bout. Il y en a qui vont partir, etc. Donc, il y a un gros problème là-dessus. J'ai écrit un article en ce moment sur la souveraineté, j'essaie de remettre au propre ces idées. Mais on a un gros problème qu'on peut pas réinventer la roue à chaque fois. Et le cloud est là pour là. Et il est là pour ça. Là, je pense vraiment que ce qu'on a besoin, et là, on part sur des considérations plus politiques, c'est un plan d'investissement, on va dire, à long terme sur nos acteurs. Parce que quand tu es une entreprise lambda, tu peux pas te permettre de prendre un si gros risque alors que tu as des solutions beaucoup moins risquées. 99% du temps, les employeurs, ils vont pas prendre ce risque.
Oui, mais alors j'aimerais interagir sur un truc, c'est que là, on parle des services managés. Or, il s'avère que déjà, les services managés ne représentent pas l'intégralité du cloud et que, a priori, grosso modo, 80% des besoins, c'est de la VM, c'est de la machine. Et pas que du service managé. C'est-à-dire qu'en gros, on a 80% des besoins dont on n'a pas besoin spécifiquement d'aller sur ce genre de cloud. Moi, il y a un truc, en effet, que je trouve qu'on fait pas assez en Europe, c'est la commande publique et le développement du logiciel libre. Parce que mine de rien, je fais un parallèle avec comment elle s'appelle la boîte de Elon Musk qui envoie des gens dans l'espace.
SpaceX.
Voilà, SpaceX est gavé de fonds publics américains et donc c'est devenu un fleuron en l'espace du moins de 10 ans. Les géants du cloud, ils ont grosso modo 15, 20 ans grand max. Donc c'est pas un retard si important que ça, à l'échelle humaine, hein, je veux dire, 15 ans c'est pas non plus énorme. Mais par contre, en effet, on a des besoins de financement. Et ces boîtes-là ont des besoins de chiffre d'affaires. Et si on n'investit pas dans nos boîtes avec du financement public, comment est-ce qu'elles vont arriver à capter du chiffre d'affaires? Parce que justement, comme on dit, elles sont pas à niveau. Donc là, en fait, c'est le serpent qui se mord la queue. Et pourtant, en France, Dieu sait qu'on sait faire, parce que on a quand même financé des centrales nucléaires, le TGV, et tout un tas de choses et de grands projets comme ça pourraient très bien financer notre innovation dans le cloud et avoir un vrai truc différenciant, surtout que on a des initiatives comme BetaGouv qui sont vraiment super et qui font un travail génial. Et moi, je trouve que ce genre d'initiative devrait être encore développé. Accessoirement, je pense qu'il y a une troisième voie entre le data center public, parce que moi j'ai travaillé pour la caisse primaire d'assurance maladie dans les data centers publics, mais gérés par des sociétés privées, mais de services publics, c'est-à-dire qu'il y avait un seul client, c'était la caisse primaire d'assurance maladie, et les sociétés privées type OVH, etc. On peut avoir, et ça j'y réfléchis depuis longtemps, des coopératives de citoyens ou des sociétés coopératives d'intérêt collectif, des SCIC, qui sont justement des hébergeurs qu'on pourrait monter de zéro, injecter des financements et que ces personnes-là travaillent avec des acteurs privés pour gérer, prendre de la connaissance sur la gestion du cloud. Enfin, il y a plein de trucs à imaginer, hein, il y a vraiment plein de sujets, on n'est pas bloqué, je pense, en tout cas en Europe, on peut faire appel à la coopération.
On n'est pas bloqué, mais je pense que là, ce qu'on a besoin aussi, c'est aussi un peu de temps pour développer des solutions qui fonctionnent. Parce qu'au-delà du budget, même si l'open source aide, même si on a des commandes publiques, il va nous falloir du temps. Et j'ai l'impression qu'on a du mal à accepter, pour aussi peut-être un calendrier politique, il y a peut-être d'autres considérations à prendre en compte, mais on a du mal à accepter qu'aujourd'hui, ben, un plan, il doit se prévoir sur 10 ans, il ne doit pas se prévoir sur 3 ans. Et ça, c'est un autre problème après. Mais je pense que le fond du problème est là, parce qu'on sait faire d'investissement public. Moi, je vais reprendre un exemple très récent. Là, du coup, la gendarmerie, ils étaient signés, je crois que chez Mitsubishi à une époque, ils avaient quitté Renault, et ils sont en train de repartir sur de l'Alpine, qui est des voitures qu'on construit en France. Donc, on a possibilité, on sait faire du financement public et des commandes publiques qui vont vers l'industrie française. Mais là, le problème, c'est juste une vision à long terme, d'attendre des retombées à long terme.
Je vais rebondir sur ce que tu dis, après je vais laisser la parole à René parce que je crois qu'il ne s'est pas exprimé sur le sujet. Il y a un truc aussi qui s'est passé, je ne sais pas si vous en avez conscience, mais on est passé d'un septennat à un quinquennat, et mine de rien, réduire des mandats présidentiels de 7 à 5 ans, ça réduit la durée de vie des projets, même si, alors, il y a une différence entre les gouvernements et les États, c'est-à-dire que les projets peuvent être menés par l'État, qui en théorie n'est pas lié à une couleur politique, même si, on le sait, l'État et les dirigeants sont liés à des couleurs politiques parce qu'ils sont nommés par les gouvernements et autres. Je pense que ça aussi, ça a changé quand même pas mal de choses là-dessus, sur les visions long terme des projets long terme. Mais tu as raison, il faut des projets long terme, c'est sûr.
Ça a changé des choses, mais je pense que dans le cas-là, c'est pas ce qui bloque, parce que les projets comme les centrales nucléaires, les projets comme enfin, tous les projets que tu as évoqués, c'est des projets qui se faisaient en plus de 7 ans, c'est des projets qui étaient vraiment sur de la très longue vie. Donc ça a changé des choses, oui, il y a sûrement des projets qui sont tombés un peu en désuétude ou qui ont eu plus de mal, je suis d'accord. Mais en réalité, la stratégie de fond, elle s'est toujours construite sur des quinquennats multiples, enfin, sur des mandats multiples en fait, potentiellement même de partis qui étaient différents. Donc le fond du problème, c'est juste d'avoir cette vision plus long-termiste et surtout cette vision, on va dire... plus risqué, on va pas se le cacher, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est quand t'as un gouvernement ou quand t'es une boîte. On va prendre plutôt l'exemple d'une boîte, parce que j'ai pas envie de politiser non plus trop le débat. Si tu prends une boîte aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, c'est un moins gros risque de dire je vais sur AWS, j'utilise mes services, etc., que d'aller en fait sur zéro et de dire bah, je vais recommencer tout de zéro. Vous avez un risque d'échec. Donc c'est plus logique pour eux aussi de partir dans la chose qui est moins risquée. Là, il y a moins de culture de risque dans ces niveaux-là, dans ces milieux-là, et c'est pas déconnant non plus. Je vais laisser la parole à René parce que le pauvre, on enchaîne un peu depuis tout à l'heure.
Non, enfin voilà, moi, j'ai pas forcément beaucoup de plus de choses à ajouter. Après, ce que je voulais dire, c'est que ben, je pense que ça nous fait aussi un peu mal parce qu'on sait que si c'est des acteurs européens ou français, ben, c'est in fine, c'est quand même de l'emploi en France, hein. Voilà, ou en Europe en tout cas. Donc c'est pour ça que je pense qu'on est assez pour essayer d'avoir quelque chose de souverain. Je pense qu'il y a oui effectivement les États-Unis, enfin en tout cas le gouvernement américain me semble finance beaucoup plus ces acteurs. Voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis ce que je peux ajouter, je pense qu'une des difficultés qu'on a aussi en France, c'est peut-être qu'on a moins cette culture de faire des partenariats entre les différents acteurs. Et là, je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment que les différents acteurs de ce domaine-là trouvent des synergies, parce que c'est un moyen, je pense, de combler un petit peu le retard. Mais voilà, faut arriver à s'entendre. Et j'ai l'impression qu'on est plus fragmenté ou du moins les acteurs arrivent moins à se faire des partenariats ensemble quoi, qu'au niveau des US. J'ai pas la solution en tout cas.
Ben, c'est une parfaite transition avec la dernière news. Je sais que vous en avez un petit peu parlé rapidement lors d'un précédent podcast, mais je voulais revenir, et là on est parfaitement dans le sujet, c'est le fait qu'OVH va publier en open source des morceaux de son infrastructure et des manières d'intégrer une partie des produits entre eux. Donc leur vision, c'est exactement ce dont on est en train de parler, c'est que en face de nous, on a des Américains qui ont des moyens immenses et nous, petits Français, on a vraiment du mal à se mettre en face. Par contre, au niveau européen, on veut faire des choses. Il y a GaiaX qui a commencé à donner des pistes. Alors, je ne sais pas si c'est le fait que ça a été noyauté par des Américains, des Chinois et compagnie, ou finalement certains acteurs privés se sont dit « si on veut que ça marche, il vaut peut-être mieux qu'on fasse ça entre nous en tant que personnes intelligentes et sociétés privées qui savent travailler et pas du côté politique où ça va partir en sucette et tout va partir en fumée. » Donc finalement, j'ai assisté à une grande présentation de Thierry Souche, qui est maintenant le CTO d'OVH, qui a réussi à convaincre Octave Klabat à passer toute leur infrastructure en open source. Donc c'est quand même un changement assez majeur pour eux. Et quand il dit tout passer en open source, c'est toutes les briques qui sont utilisées chez eux, pour la partie PaaS, pour la partie IaaS, pour tout ce qui est intégration de tout ça, parce qu'il y a déjà une partie des choses qui sont en open source, comme le portail d'administration, ils vont petit à petit tout passer en open source. Donc pourquoi ? C'est qu'en fait, ils veulent que quand on est dans un cloud, on puisse facilement partir de ce cloud pour aller dans un autre. Parce que finalement, pourquoi on va chez AWS, c'est que c'est un standard de marché pour pas mal de choses. Et finalement, on peut scaler facilement, rapidement. On a des outils qui sont déjà tout prêts pour aller tout redéployer un projet facilement, rapidement. Là, ce qu'ils veulent faire, c'est à peu près la même chose, mais qu'on puisse prendre un projet qui est hébergé chez OVH et qu'on puisse aller le mettre ailleurs. Et ailleurs, ça peut être n'importe où. Y a même des Américains qui pourraient reprendre la solution et l'intégrer chez eux. Mais un opérateur allemand peut très bien prendre leur solution, l'intégrer, l'installer de la même manière. Et finalement, le projet qui tourne chez OVH, on le récupère, on va le mettre en Allemagne. La loi change en Allemagne, on peut plus stocker des données chez eux pour une raison X ou Y. On reprend les données, on va les mettre en Suisse dans un cloud qui a à peu près les mêmes installations. Et ils veulent construire ça un petit peu comme de l'OpenStack avec des espèces de briques de Lego qui vont s'enchevêtrer les unes aux autres. Et finalement, chaque provider pourra déployer chaque morceau de la solution. Donc soit déployer l'intégralité, soit en déployer seulement une partie, soit rajouter des briques à lui qu'il pourra mettre en open source et que du coup OVH pourra installer de son côté. Donc je pense que c'est vraiment un changement majeur dans le monde de l'IT qui va arriver, parce que un opérateur comme ça qui met tout en open source, ça va être un boulot énorme pour eux et ça va être un truc vraiment intéressant pour nous, parce que en tant qu'utilisateur d'une petite boîte, moi, dans ma boîte, je suis seul administrateur système, je vais clairement pas redéployer un OVH dans ma boîte. Par contre, une boîte comme EDF, peut-être qu'ils aimeraient bien avoir une partie de cloud privé. Pourquoi pas prendre la solution d'OVH, avoir son cloud privé, et quand ils ont plus de suffisamment de ressources en interne, ou alors OVH est moins cher, et puis c'est pas problématique de mettre des données chez eux, ils peuvent avoir deux clouds entièrement compatibles. Et donc, le fichier Terraform qui marche dans leur cloud va marcher chez OVH et vice versa. Donc on peut le faire en privé. C'est déjà pas mal de choses que j'ai racontées. Je sais pas si vous aviez vu tout ça et est-ce que ça évoque chez vous, Christophe?
Alors moi, je connaissais pas les détails là derrière, mais c'est assez intéressant après. Alors c'est super intéressant parce que dans une optique multi-cloud un peu compatible et interopérable, du coup je vois vraiment l'intérêt. Après je me pose la question de savoir, parce que le business du libre, enfin quand tu mets du libre dans ta société, le cœur de ton business, en règle générale, tu ne le libères pas, tu libères les briques sous-jacentes. Est-ce que là, OVH va tout libérer, et dans ce cas-là, ça va être quoi leur plus-value, à part évidemment la manière dont ils gèrent leur infrastructure physique? Ça va être quoi leur plus-value? Je m'inquiète un petit peu là-dessus. Bon, je pense qu'ils ont quand même réfléchi, hein, c'est une grosse boîte, OVH Cloud. Donc, je sais pas trop. En tout cas, l'interopérabilité promise, moi, je dis oui. Je dis oui. Et puis, pourquoi pas, en effet, après, du multi-cloud avec d'autres briques un peu plus propriétaires ou autres.
Je pense que quand tu es OVH, tu peux te permettre de tout mettre en open source parce que de toute façon, tes clients sont déjà chez toi. Donc,
Ouais.
Ouais, il y a quand même un truc. Si je voudrais être rôle, je dirais que c'est un peu OpenStack en fait, dans le principe. Si je voudrais être un petit peu taquin. Mais au-delà de ça, en fait, c'est un peu. On va dire c'est un peu aussi une manière, je pense, de s'aligner sur ce que font AWS, GCP, tout ça, avec les parties qui sont possibles à mettre dans le cloud privé. Parce que sinon, si c'est pour ce qui est la portabilité par rapport. Non, mais. Ils n'avaient pas d'offre qu'on puisse auto-héberger en privé. En soi, pour le client, en use case, ça va répondre à ça. Après, je suis d'accord, c'est open, donc c'est il y a plus d'avantages, etc. Mais pour le client lambda, lui, il va juste le mettre dans sa case derrière ça. Pourquoi je dis ça? Parce que en fait, le souci derrière, et c'est le gros souci qu'on retrouve avec l'idée de standardisation, on va dire, entre tous les clouds, et notamment le souci de vendor locking, c'est qu'on sera... Je vois mal un autre hébergeur dire « Ah ben, on va suivre les mêmes trucs qu'OVH et tout ». Et en tout cas, s'il le fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'à un moment, il va se dire, ben moi, je veux développer ça, mais bon, le projet, on n'est pas d'accord. Et on va se retrouver avec des features, en fait, qui sont pas les mêmes chez l'un et l'autre. Et donc, on perd cette compatibilité. Et si on y réfléchit bien, et c'est là où je vais revenir sur mon premier point, et c'est très marrant, c'est qu'à la base, OVH, ils ont pris OpenStack. Et comme OpenStack, en fait, eux, ils voulaient le faire évoluer d'une certaine manière, ils ont forqué un peu des choses. Et ils ont fini par avoir une grosse partie qui est même plus compatible avec OpenStack. Donc, c'est pour ça, cette partie de, ben, on pourrait être interopérable avec potentiellement d'autres fournisseurs. Pour moi, c'est, il n'y a pas de monde où ça peut marcher, en fait, comme ça. En tout cas, avec les informations qu'on a. Après, pour la partie, vous pouvez héberger où vous voulez dans votre cloud privé ou chez un autre cloud qui vous fournit des VM ou des baies. Pourquoi pas? Et là, en fait, ça va juste se mettre en face du use case, que fait AWS avec Outpost ou d'autres. Et, ça reste quand même une réponse intéressante parce qu'il y aura l'open source derrière. Ben autrement, ouais, je suis assez dubitatif en fait sur le côté branding en mode ça va offrir un standard qui va être interopérable.
Effectivement, on peut se poser la question de à quel point ça va pouvoir être interopérable, à quel point tu vas pouvoir l'installer chez toi. Mais bon, ils ont le mérite d'essayer. J'espère que ça va prendre. Ils ont la volonté de mettre dans une espèce. Alors je crois que là j'ai quelques doutes, mais faudrait vérifier la présentation. Je crois qu'ils ont la volonté de faire une fondation dans laquelle ils vont pouvoir faire rentrer d'autres personnes. Et d'autres personnes, ça peut être des concurrents à eux. Dans la partie qu'ils vont réaliser en open source, c'est aussi le fait de pouvoir installer un OpenStack et toutes les intégrations qu'ils ont faites. Donc, ils vont garder OpenStack et en fait, OpenStack est une des briques qui peut être installée chez eux. Donc, c'est parce que finalement, OpenStack, c'est juste la partie public cloud qu'il y a chez eux. Mais il y a d'autres briques qui sont pas du tout OpenStack. Il y a certaines briques qui utilisent de l'OpenStack derrière. Par exemple, les bases de données managées, je crois qu'aujourd'hui, elles sont toutes sur de l'OpenStack. Et par contre, il y a certaines briques qui ne fonctionnaient pas avec OpenStack, notamment toute la partie IAM. Ils ont essayé Keystone avec en essayant de mettre leurs millions de comptes dessus, et en fait, ça tenait pas. Donc, du coup, ils ont cherché à développer ça par eux-mêmes, et finalement, ils ont racheté une boîte. Alors, je crois que c'est une boîte allemande ou je sais plus. Enfin, bref, ils ont racheté une boîte et ils sont en train de mettre en open source la solution qu'ils viennent de racheter. Donc, je pense que c'est vraiment à surveiller de près parce qu'il y a certains composants qui pourront être utilisés de manière autonome. Et après, est-ce que on sera capable d'installer un OVH concurrent en une semaine? Je pense que non. Est-ce qu'on sera capable de les concurrencer au niveau prix? Je pense que non. Mais je pense que ça va apporter pour certaines grosses boîtes qui voudront ça chez elles. Ils pourront avoir du cloud privé avec un niveau de fonctionnalité beaucoup plus important que ce qu'on pourrait avoir avec juste de l'OpenStack.
Je tiens juste à préciser, je dis pas que ça va pas marcher. Je dis juste que pour moi, la vision, elle va plus Bon, pour moi, ouais, on va partir là-dessus. C'est des grosses boîtes qui veulent héberger une partie ou faire du cloud hybride qui vont l'utiliser, comme AWS Outpost, encore une fois, GCP, je ne sais plus comment ça s'appelle, etc. Mais je ne pense pas que derrière d'autres concurrents, entre guillemets, vont l'implémenter.
Ce qu'il y a, c'est qu'il faut regarder les alternatives que tu as aujourd'hui. Finalement, tu as de l'OpenStack, tu as Anthos pour Google et puis celui d'AWS dont tu parlais, que je ne connaissais pas. Outpost. Je ne sais pas combien ça coûte, je ne sais pas comment ça s'installe, mais a priori, Anthos, il faut un sacré budget. Donc en gros, tu ne vas pas installer ça dans ta PME. Mais si tu regardes les alternatives qui existent, il n'y en a pas tant que ça. Et si tu regardes OpenStack, globalement, c'est que la partie compute. Alors je dis que la partie compute pour simplifier, parce qu'il y a le réseau, le stockage, mais t'as pas les bases de données, t'as pas la partie IAM vraiment poussée. Il manque plein de trucs pour avoir un équivalent d'AWS.
Ah oui, non, mais ça, je dis pas le contraire. Je dis juste que le vrai problème dans les trucs-là, c'est que si jamais un concurrent l'utilisait, en fait, il y a un moment où il sera pas d'accord, et ça va faire comme beaucoup de projets open source. Quand t'es pas d'accord, ça va finir par un fork et chacun part de son côté.
Peut-être.
Oui, alors je pense que tu devais parler de BuyDRM qui avait été racheté par OVH. Et si c'est ça, on a parlé en effet dans un actu DevOps dont je vous mets le lien en description. René, c'est quoi ton avis là-dessus ?
Bah en fait, quand je disais que je n'avais pas de solution, non, j'en ai pas forcément, mais par contre, je pense qu'effectivement, il y a une vraie piste avec ce type de projet. Moi, je rêve qu'effectivement, que les acteurs français se fédèrent et contribuent sur un projet open source pour combler un petit peu leur retard. Ça serait, pour moi, je pense que c'est une bonne voie. Après, je suis peut-être un peu naïf, et effectivement, je pense que coordonner un projet comme ça, ça va être relativement compliqué, mais ouais, je pense qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là, et comment, je ne sais pas, mais ça me paraît une très bonne chose.
Alors moi, je ne serais pas aussi pessimiste que Damir sur l'open source et l'interopérabilité, parce que j'ai un exemple de projets open source interopérables qu'on voit un peu de partout et qui s'appelle Kubernetes. Et mine de rien, ça a popé il y a quelques années et on trouve du Kubernetes de partout. Et c'est quelque chose qui a standardisé pas mal de choses dans le cloud, dans le monde des conteneurs en tout cas. Donc pourquoi pas ? L'avenir nous le dira, je pense.
Je suis pas d'accord.
Bah, on verra.
Pour Kubernetes, c'est plus dur, c'est plus compliqué que ça. Chacun a son implémentation, etc. C'est qu'un centre de quelque chose.
Oui, mais du coup, c'est interopérable quand même. L'API en elle-même, c'est la même, tu l'utilises, etc. En effet, l'implémentation de comment tu le mets, c'est différent.
On parle quand même de quelque chose de très précis, en fait.
Ouais, ouais. Mais...
Là, on parle de plateforme cloud, c'est quand même très tentaculaire, en fait, comme idée.
Ouais, mais nous verrons bien. C'est sur le même principe, tu as plusieurs briques que tu peux installer ou intégrer dans ton propre cloud. Donc là, on parle à peu près de la même chose.
En tout cas, pour le moment, je suis dubitatif. Si vous avez raison et que je me plante, tant mieux pour OVH. Hein. Pas que les auditeurs pensent que je déteste OVH. Hein. Au contraire, ils font quelque chose qui est intéressant. Mais moi, en tout cas, personnellement, je mettrai pas ma pièce sur cette partie, en tout cas, open source public.
Je pense pas que ça soit tant mieux pour OVH parce que c'est pas forcément eux qui ont le plus à y gagner. Ceux qui ont le plus à y gagner, c'est nous, parce que on va avoir des clouds qui seront compatibles les uns avec les autres. Et puis des produits open source qui fonctionnent dans toutes les entreprises, il y en a. Hein. Par exemple, il y a Elasticsearch, c'est disponible à peu près partout. À peu près en open source partout aussi.
C'est pas comparable. Là, on parle de produits qui font vraiment, on va dire, une chose ultra précise, et encore, c'est pas un standard. Hein, Elasticsearch, à des endroits, ils utilisent Elasticsearch, d'autres, ils vont utiliser autre chose. C'est des produits, mais t'as différents choix. Moi, c'est vraiment la partie. J'y crois pas que demain, on va choisir un cloud provider et qu'il aura la même API que son voisin, etc. Ils se sont tous mis d'accord. C'est le côté un peu magique là, j'y crois pas.
Bon, en tout cas, l'avenir nous le dira. Et je pense qu'on va passer à la suite. Puisque on a une rubrique maintenant pratiquement dans chaque épisode, c'est les petits outils de Actu DevOps. Et René nous a encore dégoté des petits outils. Allez René, c'est à toi.
Ah, c'est gentil. Alors, ouais, deux petits outils pour cette fois. Donc, un qui peut, qui peut servir en fait en alternative à la commande time. Donc, time, souvent, c'est un petit outil pour lancer un programme et voir entre guillemets combien de temps il a pris et avec éventuellement l'idée de combien ça a pris de ton processeur, de ton user, pardon. Enfin, au niveau processeur de type user, de type système, etc. Et donc là, il y a un outil qui est très pratique qui s'appelle Hyperfine, qui est un outil pour faire un petit peu la même chose, mais avec en plus une notion de bench, entre guillemets. Donc on peut comparer par exemple deux programmes, le temps d'exécution de chacun des programmes pour voir la différence. Donc c'est très utile par exemple pour faire la différence entre une implémentation avec un algorithme A et une implémentation avec un algorithme B et voir lequel des deux est le plus efficace. Et c'est un petit outil qui paye pas de mine, mais qui est bien foutu et qui peut être très utile. Voilà, je ne sais pas si vous le connaissiez et si vous voulez ajouter des choses dessus.
Alors, je ne connaissais pas cet outil-là, je n'ai rien à ajouter dessus à part qu'il faut qu'on l'essaye comme d'habitude.
Voilà, donc je vous conseille de jeter un petit coup d'œil. Et après, mon deuxième outil, alors je suis désolé, il est un petit peu hors sujet par rapport à notre podcast et au DevOps, mais c'est voilà, il se trouve que j'ai changé de poste il n'y a pas très longtemps et j'ai des contacts avec des gens outre-Atlantique. Et c'est toujours un petit peu pénible de trouver pour les réunions ou des choses comme ça, pour différents calls, de trouver on va dire les heures correspondantes avec le décalage. Et alors il y a plein de sites qui font ça, mais voilà, il y a un petit outil qui a été fait par quelqu'un qui s'appelle Armin Ronacher. Donc Armin Ronacher, c'est juste quand même pour le présenter un petit peu, c'est la personne qui a écrit le framework Flask en Python, donc un framework web, enfin voilà, assez minimaliste entre guillemets, si on compare à du Django par exemple. Donc il est connu pour ça et c'est quelqu'un qui travaille pour une boîte qui s'appelle Sentry. Sentry, juste pour en dire deux mots, c'est une boîte qui permet de faire du voilà de qui donne des intégrations pour différents langages et en cas de, on va dire, de problèmes, de bugs, etc., remonte vulgairement, je vais dire la stack trace vers un système centralisé sur le net, de manière ensuite à pouvoir analyser les causes de crash et donc pouvoir débugger plus facilement. Une entreprise solution qui est assez sympathique. Et donc cette personne, je pense qu'il avait, voilà, il avait aussi un peu des problèmes pour définir quand est-ce qu'il faut faire ses conf calls, et il a créé un petit outil qui s'appelle When. C'est un outil tout bête, mais en simple command line, on peut savoir trouver facilement, dire ouais, donne-moi la conf call, enfin donne-moi le temps, quelle heure il sera demain, par exemple, à 16h à San Francisco et à Tokyo. Voilà, donc avec une syntaxe un petit peu à apprendre, mais assez facile à retenir. Voilà, un petit outil très pratique pour savoir quand faire ces appels avec les gens à l'étranger, si vous avez besoin.
Ça, pour le coup, ça va m'intéresser parce que j'ai souvent ce problème-là. Maintenant que je travaille en équipe, on n'est pas sur le même fuseau horaire, pas dans le même pays dans tous les cas. Et du coup, c'est le genre de petit outil qui est assez pratique.
Je pense que ça peut aussi après s'intégrer pour faire voilà pour en faire des choses dans des scripts, des choses comme ça. Ça, c'est assez voilà. C'est pas un outil très complexe, mais qui a le mérite d'exister.
J'ai aussi souvent le problème où un utilisateur me dit j'ai une erreur à telle heure. Alors maintenant je mets tous mes serveurs en UTC, comme ça c'est plus facile pour reconvertir après dans l'autre sens. Mais du coup pour tous mes utilisateurs français, c'est j'ai eu un problème à 14 heures. Alors il faut que j'ajoute ou que j'enlève combien d'heures? Bah du coup merci parce que ça va me faire gagner pas mal de temps.
Bon.
Voilà, donc les liens seront dans les notes du
Tout
podcast.
à fait. En description de l'épisode de podcast, de la vidéo YouTube ou dans le blog, parce que chaque podcast et vidéo YouTube a un article de blog sur le site de l'IDRA. On met tout dedans. Parfois, c'est assez long. Donc, allez chercher, allez gratter, parce que je sais que tout le monde ne lit pas l'intégralité des descriptions, mais on documente quand même pas mal de choses. D'ailleurs, en parlant de documenter, on m'a demandé il n'y a pas longtemps si on pouvait réutiliser mes vidéos, les vidéos du podcast. Et donc, j'en profite pour rappeler à nos chers auditeurs et auditrices que tous nos podcasts et toutes les vidéos qui sont sur la chaîne YouTube sont en Creative Commons, donc en licence libre. Vous pouvez les utiliser, les partager, etc., etc., etc. Bref, la licence est dans le lien de la description. Il suffit juste de nous créditer et puis nous envoyer un petit mot pour nous dire « Hey, j'ai utilisé votre épisode de podcast et c'était bien cool ». Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, encore fort longue, et je vais laisser à mes trois co-animateurs le plaisir de conclure. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast. Et je laisse la parole à Nicolas pour le mot de la fin.
L'open source, c'est bien, mangez-en.
Damir, est-ce que tu as un mot de la fin aussi ?
Si vous voulez prendre une bonne résolution, ça peut être intéressant d'essayer de contribuer à un petit projet open source, si vous y intéressez, ou à la documentation, ou même faire un petit don tous les mois, ça peut être, c'est toujours une bonne chose.
Et enfin, René, tu as le mot de la fin de la fin.
Eh ben, je vais faire dans le classique pour pas trop allonger le podcast. Donc, j'espère que cet épisode vous aura intéressé. N'hésitez pas à faire vos retours sur le forum. Et à bientôt, j'espère.
Merci d'avoir écouté Radio DevOps. N'oublie pas de noter l'épisode, plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager, ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des Compagnons du DevOps. À bientôt! La balado-diffusion des Compagnons du DevOps est produite par l'Hydra.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.